Radio Campus Paris.
Il est 20h passé de 30 secondes, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est l'heure de Pour un flirt avec. Bonsoir Colin.
Salut Zoé. Bah oui, c'est parti.
Radio Campus Paris. Pour un flirt avec
Anne-Fleur Multon.
Alors que l'écriture m'avait toujours tenu compagnie pendant plein de bouleversements de ma vie, quand j'ai commencé à sortir de l'hétérosexualité, j'ai évité soigneusement de poser des mots sur ma vie amoureuse. Comme pressée par un sentiment d'urgence, j'avais l'impression qu'il fallait aimer vite et fort. Il fallait vivre jusqu'au bout, danser torse nu, revoir The L Word pour la millième fois, boire des cafés et affiner son guédard. Se blottir dans son cou, faire des allers-retours vestimentaires pour tenter de trouver son style, se demander régulièrement « mais est-ce que j'aime vraiment les jupes ou bien c'est le patriarcat ?» Se rendre compte qu'on n'a pas besoin de toujours choisir, de toujours être raccord, hésiter, vouloir foutre au feu le maquillage et le rasoir puis reprendre, quand même, le vernis à paillettes, au cas où. Marcia Burnier, je ne sais pas encore t'écrire mon amour.
Avec l'amour, on l'écrit, on le lit, on le chante et on le réenchante si besoin. En tout cas, on passe une heure avec un ou une invitée pour parler de la place que prend le sentiment amoureux dans sa vie et dans son travail. Et hasard des circonstances, en trois émissions, c'est la troisième artiste lesbienne que nous recevons dans ce studio.
Je ne voudrais pas tomber dans le complexe de supériorité, mais j'ai l'impression que nous, les lesbiennes, on est des êtres supérieurs en termes de séduction. Ça, c'est pas de moi, c'est ce qu'a dit Mélissa Lavaux il y a 4 semaines à notre micro. Et je crois que notre invitée du jour ne sera pas tout à fait en désaccord. Anne-Fleur Multon est romancière, autrice notamment pour la jeunesse. Elle est de passage par chez nous à l'occasion du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est jusqu'à lundi à Montreuil. Et entre quelques séances de dédicace, elle nous accorde une heure, le temps d'un date radiophonique.
Cette émission, vous le savez, c'est plein de petites traditions qui commencent à se mettre en place et l'une d'entre elles, c'est la sérénade. À la mi-temps de cette émission, carte blanche à un ou une artiste qui vient reprendre la chanson d'amour de son choix. Ce soir, une basse, la voix de Hot Bodies et des arbres qui se penchent. C'est plus fort que tout.
Et en fin d'émission, une autre tradition, c'est le générique de fin, bien sûr. Voilà, vous découvrirez ça tout à l'heure. Vous avez le programme. Bienvenue, on est ensemble pendant une heure.
Bonsoir Anne-Fleur Multon.
Bonsoir, merci de m'avoir ici avec vous ce soir.
Eh bien, soyez la bienvenue, on est ravis de vous avoir aussi jusqu'à 21h avec nous. Et donc on parlait de nos traditions à l'instant et tout commence par un petit questionnaire comme un moyen de se découvrir et de découvrir l'amoureuse que vous êtes. Le principe est simple, on va vous poser les mêmes questions qu'on a posées à nos invitées précédentes. Vous répondez seulement si vous voulez, c'est vous qui fixez les limites. C'est parti ?
C'est parti.
Alors, est-ce que vous avez l'habitude de parler d'amour ou est-ce que c'est un sujet intime ?
Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet intime, l'amour. Au contraire, c'est peut-être le sujet le plus public, le plus politique qui existe. Je parle d'amour tout le temps. On ne parle pas forcément d'amour amoureux, d'ailleurs, il y a l'amour-amitié. Je pense que l'amour était dès le début dans mon travail d'écriture. Et je crois que 95% de mes conversations avec mes amis, c'est parler d'amour. Et après, quand je m'endors la nuit, je pense encore à de l'amour. Et voilà, donc c'est toute une vie dont c'est le moteur, quoi.
Ça doit être presque épuisant de parler d'amour en permanence comme ça, Anne-Fleur Multon.
Et d'y penser jusqu'à mon sommeil.
Je ne sais pas si c'est épuisant. Là, j'ai commencé en septembre à faire des interventions avec le planning familial.
Ouais.
Et on parle d'amour avec les ados. De relation, en fait, on utilise ce mot parce que l'amour, c'est ça, c'est être en relation avec les autres. Et moi, je crois que c'est pas du tout épuisant de parler de ce qui nous lie. C'est ce qui, dans des temps qui sont un peu sombres, fait qu'on est, il nous reste un petit quelque chose de l'humanité. Donc, au contraire, non, je crois que c'est ça qui m'apporte du fioul, quoi.
Et bien justement, vous qui faites des interventions sur la vie affective dans le planning familial, comment est-ce que vous avez compris l'idée, le concept d'amour pour la première fois ? Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont il vous a été inculqué ?
Alors, je dirais que j'ai toujours voulu être amoureuse. Je pense parce que assez vite, déjà avec ma mère, on regardait James Bond ensemble. Et c'est une vision de l'amour. Hein. Mais voilà, James Bond, il est tout le temps amoureux.
Ouais.
Et donc, je ne savais pas trop si je voulais être James Bond ou si je voulais être les James Bond Girls.
Ouais.
En tout cas, voilà, j'avais envie de vivre une aventure avec des belles voitures.
Okay.
Donc, c'est des voitures et des belles femmes.
Et après, je dirais que... je suis quand même assez fort bercée par la pop culture depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, ça se voit dans mon roman Les Nuits Bleues, tous les titres sont des titres de chansons, de pop, etc. Et on parle d'amour tout le temps dans la pop, que ça soit Britney ou que ça soit Étienne Dao. Mm-hmm. Il s'agit d'amour, donc je pense que j'avais envie de vivre cette intensité-là. Et c'était malheureux parce que j'y arrivais pas, quoi.
Et donc, mais en même temps, qui pourrait y arriver de vivre avec autant d'intensité? Vous parlez de certains titres, Étienne Dao, Britney Spears, il y a certaines visions de l'amour que peut-être il faudrait, avec lesquelles c'est normal de vouloir prendre ses distances aussi, j'imagine, dans certaines de ses chansons.
Exactement, je pense que d'abord il y a la construction, et puis ensuite vient le temps de la déconstruction. Et ça, c'est très long. C'est avec sa psy, ça coûte des centaines d'euros
tous les
mois.
On parlait pas.
On pleure beaucoup, on morve. Est-ce que c'est fini un jour? Voilà, je pense que c'est une tension permanente. C'est ça qui fait aussi que c'est beau, quoi. Ça qu'on se sent vivant, en fait.
Et après avoir tant attendu l'amour en regardant comme ça tous les films de James Bond, est-ce que vous vous rappelez, sûrement, quand est-ce que vous êtes tombée amoureuse pour la première fois?
Alors, j'avais des petites histoires. Je crois que moi, déjà raconté, hein, je me rappelle pas très bien, mais j'ai une petite histoire avec un petit copain quand j'étais en CP. On s'écrivait des lettres. Ça devait être déjà un peu intense pour moi, voilà, quelque chose. Mais je sais pas si je me rappelle vraiment de la première fois où je suis tombée amoureuse. Par contre, je me rappelle très bien de la première fois où j'ai voulu intensément être amoureuse. Et c'était pas de quelqu'un, mais c'était un personnage de roman. Je voulais être amoureuse d'Harry Potter.
Tiens donc.
Et donc j'ai écrit des fanfictions et c'est pour ça que je suis devenue écrivaine.
Voilà. On va parler de votre rapport aux fanfictions tout à l'heure, mais moi ça m'intéressait de savoir ce que vous lui trouviez à Harry Potter.
Mais je ne comprends pas ce que je trouvais à Harry Potter. Vraiment, c'est un mystère de ma propre vie. Je sais pas, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle juste qu'il y avait une forte identification. J'ai ce petit héros qui est un peu plat et banal, chacun peut s'y projeter. Et il vit des aventures formidables et tout le monde s'intéresse à lui. Mmh. Je pense que quand on est très jeune aussi, on confond l'attention et l'amour. Mmh. Et je pense que j'avais une grosse envie d'attention plus qu'une envie d'amour. Je pense que c'est... D'ailleurs, est-ce que c'est pas toujours un peu ça, l'envie d'amour aussi? L'envie d'être regardé, qu'on compte pour quelqu'un
Et vous diriez que du coup, il y a rien qu'à changer, parce que la question suivante de notre questionnaire, on vous a demandé la première fois que vous êtes tombée amoureuse. On a envie de savoir aussi quand c'était la dernière fois que vous êtes tombée amoureuse et qu'est-ce qui aurait pu changer entre ces deux moments.
Alors, la dernière fois que je suis tombée amoureuse, c'était il n'y a pas si longtemps et c'était de ma femme.
Oh là là.
Ouais. Non, c'est vrai qu'on a traversé des épreuves assez difficiles. On a perdu un bébé. Et donc, ça a été un peu compliqué. C'est toujours compliqué, de toute façon, la PMA, etc., dans les couples de lesbiennes. Donc, c'est difficile de trouver sa place d'amoureuse. Et puis, on a perdu ce bébé, on a décidé de se réparer. Et on s'est tellement bien réparé que je suis retombée amoureuse de ma femme. Voilà. Donc, c'était, je dirais, il y a quelques mois. Ouais.
Ça veut dire quoi, ça? Moi, j'ai déjà entendu ça plein de fois. Je suis retombée amoureuse de la personne que j'aimais, etc. Mais je crois que j'ai jamais vraiment compris ce qu'on entendait par là. J'ai l'impression que c'était définitif, moi, quand on tombe amoureux de quelqu'un.
Moi, je crois qu'il y a plein de moments dans la vie où on tombe amoureux. Je me demande si il n'y a pas au début quelque chose qui relève de la passion. Et ensuite, il va falloir construire autre chose ou pas. Et peut-être c'est ça que j'appelle retomber amoureuse, c'est en tout cas aussi reconnecter avec des sentiments de passion quand on croit que ça y est, c'est fini, et tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe dans le ventre et on se rend compte qu'en fait c'est à nouveau là, ou alors c'est jamais parti, mais ça, la passion, ça demande de l'espace aussi. Et puis il y a quelque chose de plus profond où c'est pas forcément se projeter dans le temps, c'est juste on sent que l'amour qu'on a pour cette personne, il est beaucoup plus large et plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Marie Desplechin, Un lac d'amour sur un océan d'amitié. Non. Très beau roman jeunesse qui pose la question de l'amour. Et il y a cette phrase qui est un peu incroyable qui dit « J'aimerais que l'amour, ça soit comme la pâte d'amande. Quand on en a suffisamment mangé, on n'a plus faim. » Et en fait, je crois que parfois, on arrive dans l'amour à cette sensation de satiété. Et là, on se dit « Ah, je suis amoureux. » Et c'est un peu délicieux. Et ensuite, deux semaines après, on a à nouveau la dalle, quoi.
Magnifique, mais alors peut-être que du coup cette passion-là par vous, elle passe aussi par l'écriture. Et vous nous disiez avant que vous avez commencé votre carrière d'amoureuse en écrivant des lettres au CP. Et ça tombe bien parce que c'est la dernière question de notre questionnaire.
Vous avez un peu défleuré notre questionnaire, mais.
Bah là, du coup la question c'est plus est-ce que vous avez déjà écrit des lettres d'amour, mais est-ce que vous avez continué?
Alors, le roman pour lequel vous m'avez invité, donc Les Nuits Bleues, c'était un peu des lettres d'amour. C'est comme ça que je l'avais conçu. Pas exactement des lettres dans le sens où j'allais pas les poster avec une enveloppe et un cavalier qui les amènerait. Quoique j'aurais adoré, hein, je suis un petit peu dramatique. Donc,
bah oui.
Voilà. Mais non, j'écrivais ces morceaux d'amour quoi, à ma femme pour qu'elle s'en rappelle. Quoi. Et au bout d'un moment, je lui ai dit... Écoute Sarah, je trouve ça vraiment top parce que plutôt que de te les offrir, tu voudrais pas que je les vende à un éditeur et qu'il me fasse des sous avec.
Et comment elle a réagi?
Elle était très contente, elle est Lyon.
Ah oui, bon.
Tout s'explique.
Bon, bah, très bien, Anne-Fleur Multon, on continue de parler d'amour et d'astrologie, mais on va aussi parler de votre travail littéraire et de la place centrale qui occupe l'amour. Mais avant, on va écouter la voix d'une femme qui, elle aussi, a cherché l'amour. Une artiste à qui vous envoyez un petit clin d'œil dans Les Nuits Bleues. L'artiste, c'est Soko. La chanson, c'est Looking for Love. Elle est extraite de l'album Feel Feelings qui est sorti en 2020.
Radio Campus Paris.
Une insomnie. Est-ce toi ma fièvre, dans mes yeux grands ouverts, au milieu de la nuit alors que le monde dort? Est-ce toi ma fièvre qui fait tourner des cercles au plafond de ma chambre? Je dors allongée sur le pont d'un navire que tes flots enragés font grincer jusqu'aux voiles. Je t'entends répéter d'une voix où le ciel et la mer ont su se mélanger. Mon amour, je rentrerai bientôt. Dans le lit trempé, je tempête et je tremble. Depuis que tu es là dans ma vie, tous les jours se ressemblent. Est-ce toi ma fièvre qui rugit de sueur, gonfle mes ruisseaux? Est-ce toi qui reviens, puis t'enfuis et laisse sur mon épaule la marque de tes crocs? Est-ce toi ma fièvre qui triche aux cartes du désir en approchant ta langue, en couvrant tes seins nus alors que ce matin j'écrivais dessus un poème à deux mains? Est-ce toi ma fièvre qui secoue tout mon corps et rêve à ton absence alors que le monde dort?
C'était un extrait donc des Nuits Bleues, votre roman paru en 2022 aux éditions de l'Observatoire. Anne-Fleur Multon, vous y racontez une histoire d'amour qui se tisse au temps du premier confinement dans un Paris subitement silencieux. Cette histoire, c'est donc la vôtre, même si peut-être qu'on y croise un peu de fiction aussi.
Alors, si c'est la question de la fiction qui arrive, non, je raconte que des choses qui se sont vraiment passées. Ouais. C'est de l'autofiction. Je me suis posé la question d'assumer ce choix. Est-ce que j'aurais pas pu tout simplement changer les prénoms et rendre l'histoire anonyme aussi? Et au moment où Les Nuits Bleues est sorti, il y avait très peu d'histoires lesbiennes, déjà de romance, voilà, avec tout ce qui vient de cuculapraline qu'on adore dans une romance, etc., qui se finit bien. Et on a besoin, je crois, de récits qui se finissent bien dans la fiction. On a besoin de savoir aussi, dans la vraie vie, que ça se finit bien. Ouais. Et donc, je me suis dit, cette histoire-là, je ne l'ai pas inventée. Évidemment, je l'ai retravaillée pour que ça devienne un roman. Mais j'ai envie que mes lectrices, elles sachent, qu'elles puissent espérer, comme moi, j'aurais pu avoir besoin de l'espérer aussi. Et donc voilà, et effectivement, je vois que sur Instagram, il y a souvent des lectrices qui viennent me voir et qui me disent « Mais j'ai vu qu'en fait, ta femme était sur Instagram, et donc elle existe vraiment? Vous existez pour de vrai? C'est possible d'aimer comme ça ?» Et tout d'un coup, et des gens qui, voilà, suite à ce roman, ont fait des coming out. Donc je me dis, en fait, c'était le bon choix. C'était un peu un pari au moment où je l'ai fait, mais c'était la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là, ouais.
Et bien justement, sur ce côté belle histoire qui finit bien avec tout le petit côté cuculapraline qui va aussi avec les belles histoires d'amour, on a trouvé qu'il y avait aussi quelque chose de presque un peu un adolescent, mais dans vraiment le meilleur sens possible du terme, dans les émois amoureux comme vous les racontez. Je cite par exemple un passage. « Depuis que je suis là, donc chez Sarah, on n'arrive pas à regarder un film ensemble en entier, voire plus de films du tout. Nous qui avant, on dit avant comme si c'était il y a très très longtemps, nous qui avant en regardions un ensemble tous les soirs. Quand je relis un mail, c'est toi que je vois, bouche entrouverte, sourcils froncés, tu gémis. Quand j'écris un chapitre, c'est encore toi, de dos, qui retourne une crêpe. Quand je tourne la salade, j'imagine tes mains petites et fines et puissantes, et la salade déborde. »
Alors moi, j'écris pour les ados, normalement. et ce que j'aime chez les ados, spécialement dans l'écriture pour les adolescents, et chez les ados tout court, c'est la question de l'intensité. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte d'éprouver des choses pour la première fois, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'ils les éprouvent, tout simplement, il n'y a pas à tricher. Nous, les adultes, on a tendance à se dire « Oh, j'ai vécu, j'ai un peu d'expérience. » Et donc forcément, on met à distance aussi les sentiments. C'est vachement plus facile d'être un peu cynique. Moi, je crois qu'il y a quelque chose d'hyper de droite dans le fait d'être cynique. Et donc, je refuse politiquement le cynisme. Voilà.
Ce sera la citation de l'émission. Il y a quelque chose de droite dans le fait d'être cynique.
C'est exactement ce que j'étais en train de noter.
Voilà.
Mais du coup, effectivement, j'avais envie d'assumer comment on se sent et justement le fait qu'on a l'impression d'inventer le monde quand on est amoureux, ce qui est un sentiment un peu ridicule, mais c'est ok parfois d'être ridicule quand on est en train de faire un truc beau. C'est ok de s'autoriser à vivre les choses pleinement, à être triste pleinement si ça marche pas aussi. En fait, c'est pas parce que c'est la troisième fois qu'on se fait tège que c'est moins terrible ou moins grave, même si ça fait une semaine. En fait, aussi, il y a une forme de projection. C'est la différence avec la littérature ado, c'est que la projection, elle est pas la même, et ça, j'en parle aussi dans le roman. Pour moi, ça rajoute encore plus d'intensité, parce qu'on sait que c'est fragile aussi, l'amour.
On va parler de littérature ado et de ce lien entre Les Nuits Bleues et le reste de votre œuvre littéraire. Mais la question aussi que je me pose, c'est un roman qui est beaucoup empreint d'une certaine sensualité, voire d'érotisme. Et c'est quelque chose que du coup vous avez pu vous permettre parce que c'était votre propre histoire et parce que c'était pas de la littérature pour adolescents. Il y avait comme un territoire un peu nouveau pour vous à explorer ici.
Pas tellement, parce que, alors oui et non, en littérature ado, il y a quand même, c'est la seule littérature en France qui est officiellement censurée, donc il y a une loi et les éditeurs doivent montrer les textes à un certain nombre de censeurs, etc. Et 130 textes par an sont censurés en France, enfin vérifiés et parfois censurés, donc sortis du marché. C'est arrivé récemment à Bien Trop Petit de Manukos Plisson.
Aux éditions de Thierry Magnier.
L'Ardeur, pour lesquelles je vais écrire un texte d'ailleurs. Et justement, donc, il existe des collections qui parlent de désir, qui parlent d'amour aux ados, qui le font super bien. Je vous conseillerais de lire La Chasse de Maureen Desmailles chez L'Ardeur.
Je viens de recevoir le prix vendredi, donc prix de littérature jeunesse.
Exactement, un texte sensuel, merveilleux, qui parle de désir vraiment aux ados. Évidemment, en fonction des âges, on parle de désir différemment. J'ai écrit des contes pour les tout-petits, mais déjà, en fait, je parle d'amour et donc de corps, voilà, de papillons dans le ventre, de joues qui chauffent, de mains qui moitent. Et en fait, tout ça, c'est déjà l'amour. Le nommer, c'est aussi créer des liens dans les têtes des enfants. Après, voilà, les éditeurs sont un peu frileux parce que derrière, il y a les parents. Et c'est sûr que en littérature adulte, on n'a aucun frein. En tout cas, pas cela. Mais ce texte, Les Nuits Bleues, il a eu du mal à trouver un éditeur, alors que moi, c'est mon métier depuis longtemps et j'ai jamais eu de problème à trouver un éditeur. Les Nuits Bleues, oui, parce qu'on me disait, oui, c'est un peu niche, c'est un texte qui va plaire à un public particulier, les lesbiennes. En fait, évidemment, ça s'est très bien vendu, tout simplement parce que tout le monde aime l'amour, même en dehors des lesbiennes, qui sont les championnes.
Décidément, chaque émission, notre invité va nous le dire.
Championne de l'amour. Il faut bien qu'on soit championne d'un truc. Hein. Mais donc, et du drame. Mais voilà. Et donc, non, vraiment, je crois que je me suis quand même permise des choses, mais qui ne sont pas de l'ordre de l'écriture du désir, plutôt de l'écriture peut-être que justement, dans littérature adulte, il y avait des choses qu'on dit jamais. Par exemple, il n'y a pas de pédagogie en littérature adulte. Or, je crois que quand on parle du sexe entre deux femmes, par exemple, on a besoin encore d'être pédagogique, de dire à quoi ça ressemble. Voilà, les personnages dans le texte font la découverte d'une jouissance particulière. Et ben, en fait, je la montre et je nomme ce qui est en train de se passer là. Et j'avais envie, mais même j'écris Cyprine. Et Cyprine, c'est un mot qu'on écrit rarement parce qu'il ne paraît pas beau, etc. Donc ouais, peut-être finalement...
Ça passe par le langage aussi, là vous dites vous écrivez Cyprine, il y a quelque chose de performatif, mais vous écrivez aussi Sarah dit sucer, Sarah dit, etc. Il y a quelque chose aussi, et là on retombe aussi dans cet érotisme auquel je faisais référence, qui est assez... c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué à lire.
Et effectivement, je pense aussi que dans quelque chose de très simple et de très cru, quand on dit quelque chose simplement... tout d'un coup, ça devient hyper érotique. Et c'est peut-être la différence d'ailleurs avec la pornographie. On m'a déjà posé cette question, mais la pornographie, ça suggère beaucoup. Alors que je crois que l'érotisme, regarder quelqu'un dans les yeux et dire « tu me plais », c'est hyper érotique. Y a pas... Voilà, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très sincère. Et voilà, et de la même façon, tout d'un coup, si on dit, son clitoris est dressé, en fait, il n'y a rien de vulgaire. C'est les choses comme elles sont, et tout d'un coup, c'est hyper excitant.
Et si on revient du coup à la littérature jeunesse, puisque je rappelle que vous serez tout ce week-end au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis à Montreuil, parmi vos ouvrages, il y a aussi « Il était une autre fois », ce sont des relectures de contes pour enfants, des contes qu'on connaît très bien, « Cendrillon » et devient « Cendre » ou « Cendré », « Une petite fille trans »,« La Belle de La Belle et la Bête est une jeune fille qui rêve à son indépendance ». Ces contes, vous les publiez aux éditions « On ne compte pas pour du beurre ». Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots très rapidement de cette maison d'édition ?
Super belle maison d'édition, ouais. Maison d'édition qui a des éditrices queer, qui a des illustratrices queer, qui a des écrivaines queer. Ça n'existe jamais une telle bande de concernés pour faire des textes pour tous les enfants qui vont enfin parler à des enfants qui sont peut-être pas dans la norme, ou qui ont des familles qui le sont pas nécessairement. L'idée, c'est de dire nos histoires sont pas seulement des sujets comme le divorce. En littérature jeunesse, on va voir souvent ça. Voilà. Mes parents divorcent, Max et Lily sont très très tristes. Mes mamans sont lesbiennes, c'est terrible à l'école. Et les autres se moquent. Voilà. Donc en fait, non, on peut aussi avoir des histoires où on a un personnage, une princesse qui est lesbienne, mais en fait le sujet, ça reste quand même la prise du château et l'histoire d'amour. Et le fait qu'elle est lesbienne, ça crée juste... une péripétie supplémentaire, ouais. Ou que ça soit un obstacle ou un adjuvant. Et donc, il faut le prendre en compte dans l'histoire. Par exemple, vous parliez de Cendre tout à l'heure. Et effectivement, le fait d'être trans, c'est pris en compte dans l'histoire. Mais finalement, le conte en parle déjà, ouais. D'identité. Le conte parle déjà de qui on veut être plus tard, de transition, de costume fabuleux, de performance du genre. Et donc, il n'y avait rien à inventer, finalement. Voilà.
Moi, ça m'a fait penser une réécriture de contes et de mythes en fait, par Claude Cahun, mais c'était il y a 100 ans. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà croisé dans vos lectures ou pas.
Alors, mais j'adore héroïnes. Claude Cahun.
C'est vrai.
j'ai l'ambition depuis très longtemps d'écrire une biographie de Claude Cahun.
C'est vrai.
Et je suis très contente que ça vous y fasse penser parce que moi, j'avoue que j'y ai un peu pensé en l'écrivant et j'en avais jamais parlé. Ah, très très flattée là.
Ah, génial. Et bah oui, parce que Claude Cahun, c'est un texte qui est vraiment peu connu, mais a écrit plusieurs nouvelles qui ont été rassemblées en 2006 sous un recueil qui s'appelle Héroïne. Et donc, c'est des réécritures en fait de figures mythologiques, de contes. Donc, il y a Ève, Judith, Sappho, Cendrillon. Et une réécriture, alors pour le coup, c'est pas du tout public enfant, mais il y a déjà cette idée de. Pour le coup, il y a vraiment une idée de subversion. Et donc, Claude Cahun, il faut quand même dire, c'était une artiste, une écrivaine lesbienne, queer, a priori, avec une définition de genre...
Assez fluide.
Enfin, c'était quand même dans les années 20. Et voilà, je me demandais si c'était un modèle. Et du coup, la réponse est oui, un peu.
Je pense que c'est clairement une référence qui m'a construite. Mais de toute façon, tu parles de réécriture. Et je crois que... je ne sais pas si je parle de réécriture, moi, parce que... Vraiment, je crois que le conte, intrinsèquement, c'est une réécriture perpétuelle. Donc, j'avais vraiment envie, moi, de m'inscrire, ce que Claude Cahun a fait un peu aussi à sa manière, s'inscrire vraiment dans une histoire traditionnelle du conte et venir dire, en fait, on a notre place dans cette tradition d'écriture perpétuelle, de remâchage. Les bourgeois sont investis, en fait, de cette matière qui sert avant tout à convaincre, à persuader même, je dirais, les enfants et les adultes qui lisent aux enfants. En fait, que le monde, il est façonnable de telle ou telle façon. Et donc, on a réussi à nous faire admettre que les princesses, c'était des êtres faibles et fragiles, etc. Pourquoi elles ne seraient pas lesbiennes? Ben, en fait, tout est possible.
Et moi, ça m'a fait penser, effectivement, ce côté les contes comme une source d'interprétation inépuisable. Vous n'êtes pas la seule à vous y être attaquée, puisqu'il y a eu très récemment un ouvrage d'une chercheuse, je crois, une autrice qui s'appelle Lucille Novat, qui a publié donc, De si grandes dents aux éditions Zone. Et dans ce livre, elle veut mettre en évidence le malentendu général, selon elle, autour de l'histoire du Petit Chaperon Rouge, puisque selon elle, ce serait une histoire d'inceste. Est-ce que, avec vos albums et vos livres... Je vais un petit peu dans le sens de ce que vous disiez à l'instant. Vous cherchez à comme repolitiser une littérature qu'on a cherché à dépolitiser.
Alors, je pense que la littérature jeunesse a toujours été politique. Simplement, qui s'en chargeait? De quelle politique on parle? Il me semble qu'actuellement, là, on fait face à une offensive très visible de l'extrême droite sur la littérature jeunesse, avec là le groupe Bayard, par exemple, qui est en train d'être racheté.
Donc le groupe Bayard, il faut préciser, c'est à la fois le journal La Croix, mais aussi beaucoup de titres de presse jeunesse.
J'aime lire,
le plus connu, sans doute. Voilà.
Et puis Bolloré, qui a quand même racheté Hachette, Editis, etc. Ouais. Donc, et des marques jeunesse qui sont dedans. Qu'est-ce qu'on va produire derrière comme type de littérature et qu'est-ce qu'on va faire lire aux jeunes? Il faut savoir, par exemple, on parlait de Thierry Magnier tout à l'heure, la censure du livre de Manu Cosplisson a eu des conséquences directes sur l'économie de cette maison d'édition qui est une maison indépendante. Aujourd'hui, publier des histoires qui sont politiques, ça a des conséquences sur la vie des auteurs, ça a des conséquences sur les éditeurs, il y en a certains qui sont virés, il y a des maisons qui s'écroulent. Donc je crois qu'il faut vraiment se mobiliser derrière les auteurs et les éditeurs qui font ce travail, faut aller en petite librairie acheter ses bouquins, faut aller les commander sur Place des Libraires plutôt que sur la FNAC. La littérature, c'est politique, et à nous aussi d'être très courageux, de ne pas baisser les bras, de continuer à envoyer nos textes, à ne pas essayer de se conformer à ce qu'on attend de nous. Je crois que là, on arrive à quelque chose. Les auteurs se battent, il y a un syndicat des auteurs qui nous défend, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Moi, j'y crois.
Et puis ce contexte politique dont vous parlez, il y a donc tout ça, cette mainmise progressive de l'extrême droite sur notamment la littérature jeunesse. Et puis on peut aussi parler de la région Pays de la Loire, où la présidente de région veut sabrer le budget de la culture, ce qui laisse entrevoir un avenir assez incertain pour de nombreuses institutions culturelles et notamment des maisons d'édition. Vous, peut-être votre pierre à l'édifice, ou en tout cas votre chantier actuel, c'est un musée, le musée de la littérature jeunesse francophone que vous voulez installer au Mans.
Tout à fait. Alors, je ne veux pas l'installer toute seule. On est une grosse équipe quand même. Mais effectivement, je fais partie de l'équipe des fondateurs de la Maison de la littérature jeunesse francophone. Ouais. Donc, un lieu qui va être absolument merveilleux, où les enfants verront leurs personnages et les lieux de littérature jeunesse favoris de la littérature jeunesse contemporaine prendre vie. Ils pourront s'immerger dedans, escalader sur l'arbre de Toby Holness, s'envoler parmi les 1000 papillons noirs. Enfin bon, bref, ça va être formidable. Ce lieu, ça fait déjà 3, presque 4 ans qu'on l'imagine en équipe. On a un espace, donc ça sera au Mans, à l'actuel Musée Vert pour les personnes du Mans qui nous écoutent. Maintenant, c'est un rêve qui a un prix. Effectivement, on est très inquiet de ce sabrage des subventions. On entend partout les réacs dire que les enfants ne lisent pas. Peut-être faut se poser la question, pourquoi ? Voilà.
Je reviens à votre travail. Tu voulais dire quelque chose peut-être, Zoé ? D'ailleurs, je te coupe la parole, excuse-moi.
Ah, tu ne me coupes pas la parole puisque...
puisque je ne te laisse même pas parler.
Non, mais je pense qu'on avait envie de parler de la même chose. On avait envie de parler de quand même la série Allô Sorcière.
Absolument.
Tu pensais à ça ? Et bien voilà. Bah, oui, quand même, parce qu'on est allé très vite en besogne, mais on n'a quand même pas présenté cette série que vous avez écrite donc aux éditions, j'ai plus en tête.
Pulp Fiction.
Les éditions
Pulp Fiction.
Donc c'est une série que vous avez fait avec l'illustratrice Digli, avec donc c'est souvent des histoires de copines, d'amitié, mais pas que. Et là on a avec nous en studio le tome 3, Un peu plus près des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement de quoi ça parle ?
Alors, Un peu plus près des étoiles, effectivement, c'est le tome 3 de la série Allô Sorcière. 4 copines qui habitent dans 4 coins de la francophonie, donc des endroits où on parle français dans le monde, qui se retrouvent sur Internet, qui ont une chaîne YouTube qui s'appelle Allô Sorcière, mais aussi un compte TikTok, un compte Instagram. Elles sont très connectées, font plein de contenus ensemble sur des questions qui les passionnent. Et dans Un peu plus près des étoiles, c'est Itai qui est la star, parce que chaque tome est incarné par un des personnages. Et donc Itai, elle habite en Nouvelle-Calédonie. C'est une île où moi j'ai grandi. Et donc c'est quand même assez inspiré de ce que j'ai pu ressentir à cette époque, et en étant ado aussi. Voilà, aussi effectivement, truc, je me suis inspirée de ce que je pouvais ressentir quand j'étais ado et que j'étais fâchée contre le monde entier. Et donc Itai, elle est très fâchée, ce qui n'était pas le cas des petites sorcières précédentes, des tomes, voilà. Et ses parents en plus sont assez démissionnaires, etc. Et donc elle a raison d'être fâchée. Et ce qui se passe dans son île, c'est qu'il y a, voilà, il y a à la fois une nouvelle école, une nouvelle camarade à l'école qui s'appelle Gaïa et qui est très très mignonne. Et puis il y a en même temps son village qui est menacé par, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des mines de nickel. Et le nickel, c'est un des métaux qui rapporte le plus d'argent, mais aussi il faut creuser et, pour l'obtenir. Et en fait, ça vient dégrader le littoral et le lagon. On n'en trouve qu'en Nouvelle-Calédonie et dans un petit endroit en Chine. Donc vraiment, c'est une grosse menace pour la Nouvelle-Calédonie. Itai en a rien à foutre parce que elle, ce qui l'intéresse, c'est de se faire des copains, et elle a bien du mal à ça. Et en fait, l'histoire de ce roman, c'est comment est-ce qu'on devient militant. Ça n'arrive pas de nulle part. On devient militant parfois par amour, c'est le cas d'Itai. Voilà, ce qui nous ramène au sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous fait faire l'amour?
Et puis ce qui nous ramène aussi à un autre sujet, parce que c'est aussi l'amitié que vous explorez dans ce texte. Et Itaï, elle se fait des amis donc par Internet, vous parlez de toute cette communauté. Ça ramène aussi un peu à votre expérience et à l'expérience aussi de la fanfiction, qui je crois a été une des portes d'entrée pour la littérature de votre côté. Donc une pratique plus communautaire, on va dire, quoi, très rapidement.
Très rapidement, sur la fanfiction, ouais, carrément, c'est comme ça que j'ai appris à écrire et je me suis fait mes meilleurs amis. Sur internet, sur fanfiction.net. Effectivement, c'est un lieu d'amour et d'amitié merveilleux.
Eh ben merci beaucoup.
Et sur ces belles paroles, on arrive déjà à la moitié de date radiophonique. Et donc, vous le voyez venir, c'est le moment de la sérénade. Et chaque mois, donc en fait, quelqu'un, un ou une artiste, vient reprendre la chanson d'amour de son choix. Et ce soir, dans Pour un flirt avec, on écoute Hot Bodies.
Des arbres se penchent, c'est plus fort, plus fort que tout. Accroché aux branches, l'air me semble encore trop doux. Dans l'herbe écrasée à compter mes regrets. Allumette craquée tout bas en fumée. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais ce soir là on s'est embrassé sans se parler. Autour de nous le monde aurait pu s'écrouler. Les yeux cernés des poussières dans les cheveux. J'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Et quand la plaine ondule, que jamais rien ne m'atteigne.
Bonsoir Hot Bodies et merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Merci à vous.
C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Pourquoi cette chanson Pendant que les champs brûlent de Niagara?
C'est une chanson que j'ai croisée quand j'étais vraiment jeune et qui en fait avait cette espèce d'érotisme bizarre des années 90 comme ça et qui me plaisait.
Vous savez quoi, pendant que je continue à vous poser une question et que je meuble, vous allez pouvoir vous installer devant moi, comme ça il n'y aura pas de réverbération pendant que vous parlez, même si c'est très sympathique, mais c'est vrai que ça fait peut-être un effet un peu étrange pour nos auditeuristes, voilà. Une question un peu toute simple, mais est-ce que vous vous souvenez de comment est-ce que vous avez découvert ce tube de Niagara?
C'était à la télévision.
Tout simplement.
Ouais, dans les clips de la nuit de M6, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des programmes qui était dédié au clip, et donc le clip est assez particulier, il est un peu psychédélique comme ça, et toujours ce truc un peu érotique en oblique, qui me parlait en tant que personne un peu sur le spectre, comme on dit.
Et d'autant plus érotique dans la manière dont vous reprenez cette chanson, ce choix de le faire seulement à la basse et à la voix, j'imagine que ça fait partie de ça.
Ouais, complètement. Bah, le projet qui arrive du disque qui vient, c'est quasiment que basse-voix et électronique, dans une envie justement de voir un peu les angles de la musique queer, de voir comment est-ce qu'on peut glisser de club vers des endroits plus ému, peut-être plus affecté, et en même temps avec quand même une envie de parler d'érotisme, de sexualité et d'état de corps un peu intense comme ça.
Ouais. Vous avez hésité quand vous avez cherché un peu la chanson, parce que je sais que vous m'avez très vite parlé de Pendant que les champs brûlent, mais est-ce que voilà, il y avait d'autres options un peu que vous avez
Oui, il y avait Kate Bush.
Ouais. Laquelle? Parce que
Running Up That Hill, évidemment. Ouais. Il y avait une chanson terrible, la chanson de Radiohead sur le bateau là, qui a servi de exit music.
Ah oui.
Qui est tragique, mais c'est dur à faire techniquement, donc j'ai choisi une chose plus facile.
Et peut-être un peu plus légère aussi.
Ouais.
Et en quoi est-ce que c'est une chanson d'amour finalement pour vous, pendant que les champs brûlent, ou en quoi c'est même la chanson d'amour?
Bah, pour moi, en fait, c'est plutôt le fait qu'elles sont ensemble, enfin je les vois comme des filles, mais peut-être c'est pas des filles, elles sont ensemble devant un désastre, et je trouve que le fait d'accepter qu'on est devant un vertige ensemble, c'est pour moi une forme d'amour. Enfin, en tout cas, ça me parle dans le geste que je dois faire quand je suis amoureuse, on va dire, ou quand je suis devant une personne avec qui je me lie. Et ce truc de feu et d'accepter aussi que le danger s'approche, c'est plus ce vertige-là qui me parle, je crois.
Bah justement, moi, je me demandais, cette métaphore des champs qui brûlent, c'est assez énigmatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
En fait, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur obsession pour la stabilité et les choses reconnaissables et le langage qu'on peut identifier. Je trouve que justement, c'est un peu de droite. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit, c'était hyper inspirant. Mais oui, cette espèce d'obsession pour des choses qui seraient contrôlables. Et tout de ma vie me demande d'accepter l'instable et d'accepter le mouvement et... transitionner c'est spécial, faire de l'art c'est spécial, militer pour des causes qui sont pas forcément les miennes, ça me demande d'accepter cette espèce de danger, de choses un peu urgentes, parce qu'on est en relation avec ça, et je pense que le feu de cette chanson, c'est peut-être le feu que je retrouve dans le travail de Mike Baxan par exemple, ou dans des artistes qui peuvent m'entourer, qui parlent de cette urgence-là, je crois.
Est-ce qu'il y a des choses un petit peu, enfin je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas si vous pouvez tout dire, qu'est-ce qu'on a à attendre de votre côté? Vous avez parlé de cet album qui arrive, de basse voix, est-ce qu'il y a des choses à annoncer du côté de Hot Bodies?
Complètement, il y a déjà un titre qui tourne qui s'appelle Demons, qui parle aussi de fées et de démons qui se patifolent dans des cascades, donc ça c'est déjà en ligne, et le prochain single avec Chapelier Fou aux cordes, entre, disons, janvier-février, on hésitait sur la date tout à l'heure, donc janvier-février, mars, par là, et l'album en 26, premier trimestre, avec un live en mars, mais qui sera annoncé à Paris.
Bon, beaucoup de choses et beaucoup de choses très enthousiasmantes. Mais Hot Bodies et Chapelier Fou, on a très très hâte de voir cette collaboration. Merci beaucoup Hot Bodies en tout cas d'être passé par les studios de Pour un Flirt Avec sur Radio Campus Paris, et donc on attend la suite avec impatience. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Écoutez Radio Campus Paris, et ce soir, dans Pour un Flirt Avec, nous voguons sur les mers amoureuses avec la romancière Anne-Fleur Multon. Et dans cette dernière partie de notre rendez-vous, c'est l'heure de découvrir votre panthéon amoureux. On vous a demandé donc de choisir les trois objets, les trois œuvres qui les composeraient. Et donc votre premier objet, Anne-Fleur, c'est tellement une évidence, j'aurais presque pu parier dessus. Et je pense que je dirais, j'aurais eu une chance sur deux de tomber juste. C'est évidemment Carol de Todd Haynes, ou le film de Noël totémique des lesbiennes indie. Carol, c'est l'histoire d'amour entre Carol, grande quadra fortunée en instance de divorce jouée par la divine Kate Blanchett, et la jeune Thérèse, incarnée par la non moins sublime Rooney Mara dans le New York des années 50. On écoute un passage, c'est le début du film, elles sont au restaurant.
And your meals.
Oh. Thank you.
Thank you.
Enjoy.
I'm starved. Bon appétit. What do you do on Sundays?
Nothing in particular. What do?
Oh, nothing lately. I mean, if you'd like to come visit me sometime, you're welcome to. At least there's some pretty country around where I live. Would you like to come visit me this Sunday?
Yes.
What a strange girl you are.
Why?
Flung out of space.
Donc, Carole, un film sorti en 2015, il y a presque 10 ans maintenant. Est-ce que ça fait au moins aussi longtemps que ce film est une référence absolue pour vous, Anne-Fleur ?
Je sais pas si... Je crois que je l'ai pas vu au cinéma. Je pense que je l'ai vu quand même la première année où il est sorti, ouais. Et tout de suite, enfin, il y a tout ce qu'on aime déjà parce que c'est Noël. Donc, on adore les comédies romantiques de Noël. Mais il se passe quelque chose dans ce film qui est un peu au-delà... la comédie, l'excellente rom-com lesbienne. Et tout à l'heure, tu as dit un indie. C'est vrai qu'il y a. En fait, je crois que là, à l'écouter sans les voir, habituellement, je dis ce qui me marque dans ce film, c'est la façon dont les personnages se regardent. Mais en fait, je crois aussi que ces espèces de voix très calmes qui sont là pendant tout le film, les seuls moments où on crie, c'est quand il y a des hommes dans ce film. Et sinon, c'est très, très calme. Et je crois que tout l'érotisme de Carole, et qui nous étreint le cœur, là, moi, j'écoutais, mais j'avais le cœur écrabouillé entre mes côtes, quoi. C'est quand même très intense, alors que, justement, ça ressemble pas à ce qu'on mettrait dans l'intensité. Espèce de voix un peu soufflée. Ouais. C'est
de longs silences.
Voilà. C'est ces silences qui sont pas gênés, qui sont installés, comme ouais. Quand on est bien avec quelqu'un. Et c'est ça qui est presque un peu gênant, parce qu'on se dit, moi, je suis de trop dans ce film. En même temps, c'est assez délicieux. Et je crois que c'est l'ensemble, là, je me disais, à l'écouter, je ne l'avais jamais juste écouté. Il faudrait que je me l'écoute en entier, ce film. Il y a quelque chose à apprendre, je crois, de la littérature du silence quand c'est un film de lesbienne. Quoi.
On attend l'audiobook de Carole à écouter chez soi. Alors, justement, dans Les Nuits Bleues, votre narratrice... Vous-même, votre narratrice, aime aussi les femmes plus âgées qu'elle. Elle dit, donc je cite votre livre, « Je les aimais toutes avec leurs rides du sourire et celles sous les fesses qui font des vagues sur les doigts avec leurs peaux mouchetées de trop de soleil et leurs mentons un peu flous. » Donc j'imagine que ce film a aussi une résonance particulière et intime pour vous.
Je pense que c'est le cas de beaucoup de lesbiennes. Hein. Quand même, il y a une forme, et globalement dans la communauté aussi, il joue plusieurs choses. Déjà, on parlait d'adolescence tout à l'heure. Il n'y a pas trop d'adolescence LGBT, parce qu'en fait, c'est pas le lieu de faire son coming out le plus souvent. À soi, son coming in à soi, son coming out aux autres, ça dépend des milieux dans desquels on vient. Hein. Mais parfois, c'est aussi simplement difficile de se dire « je suis cette personne » quand on n'a aucun exemple du fait que ça existe. Et cette question m'a un petit peu bouleversée. J'arrive plus à me rappeler exactement. Je suis partie dans le truc d'adolescence là.
Si c'est ça, vivre sa deuxième adolescence pour faire un lien entre Carole et cette grande différence d'âge qu'il y a entre les personnages.
C'est vrai. Il y a en tout cas une forme de transmission, je trouve, ouais. Entre les femmes qui jouent et globalement dans la communauté. Voilà, cet écart d'âge qu'on peut pas lire exactement de la même façon, mais en même temps qu'il faut interroger, je trouve, en tant que communauté, parce que derrière il peut y avoir aussi des dynamiques de pouvoir. On le voit d'ailleurs dans Carole. Des dynamiques d'argent qui viennent interférer dans sa relation. Et donc tout ça, c'est des questions infiniment de communauté. Mais aussi, il y a quelque chose de doux dans cette intergénérationnalité de l'amour qui est possible, là je parle chez lesbiennes, qui dit que en fait, vieillir ne nous empêche pas de perdre ce qui est au cœur de l'amour, qui est le désir. Et ce qu'on dit tout le temps aux femmes hétérosexuelles, c'est... t'as passé 30 ans, t'es plus sur le marché de la bonne meuf, enfin voilà. En fait, les lesbiennes comme Carole, qui ont combien 40 ans, sont définitivement sur le marché de la bonne meuf, quoi.
Oui.
Il n'est pas de hasard. Il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie.
Votre second objet, Anne Fleur, c'est le titre « L'ouverture » d'Étienne Dao, sorti dans son album « Corps et âme » en 2000. L'ouverture, vous nous dites, Anne Fleur, c'est un titre qui vous a accompagné pendant l'écriture des Nuits Bleues. On a le droit d'en savoir un peu plus ?
Oui, alors ça m'a carrément accompagnée et je peux même vous dire que c'était la chanson de notre arrivée à notre mariage avec ma femme. Donc c'est... Pour vous dire à quel point c'est une chanson qui est sur mon... C'est notre chanson. Et il y a un certain nombre de... Alors, j'adore Étienne Dao et c'est un peu une transmission. Je dois de connaître cet artiste par ma mère. Et on écoutait ça ensemble, Étienne Dao. Après moi, quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études, j'ai été à un certain nombre de ses concerts. Par souvenir aussi de ces moments partagés avec ma mère. Et puis c'est délicat. Il y a deux grosses inspirations qui sont des hommes dans l'écriture des Nuits Bleues en termes de poésie, Prévert et Étienne Dao. En fait, Étienne Dao, aller dans la salle d'un de ses concerts, il n'y a que des femmes d'un certain âge, et moi.
Et des gays.
Et des gays, voilà. Et une lesbienne qui hurle.
Et un flamme ultime.
En fait, je trouve qu'il y a une douceur, une intensité, une capacité à dire les choses. Et donc, en hommage à cet artiste de la pop culture, vraiment hyper populaire, qui à l'art de dire l'amour qu'on pourrait espérer pour des femmes qui souvent en manquent. Enfin, moi, c'est ça qui me touche, en fait. Ça s'adresse à des femmes hétérosexuelles, Étienne. Bon, et aussi des gays, malheureux.
Eh oui.
Mais à des femmes hétérosexuelles de 45, 50, 60 ans. Et on les voit hurler dans les concerts. Elles sont rouges, elles adorent. Et en fait, c'est tout ce qu'elles attendent de la vie. Et ça leur arrive pas. Et moi, c'est un truc qui me touche. Et quand j'étais amoureuse, voilà, je pensais à lui. Et en fait, j'ai pensé à lui en allant rejoindre Sarah, parce que je me disais, voilà, ma vraie histoire, je la vis. Et voilà.
Et les pièges nombreux avant que l'on se trouve. Ils furent le chemin, les mirages nombreux avant que l'on se trouve. C'est notre rendez-vous, pas une coïncidence.
Alors sur cette fin en apothéose, d'où l'ouverture d'Étienne Dao, on passe à votre troisième objet, Anne Fleur. Et donc c'est le Miroir d'Ambre, le tome 3 de la trilogie La Croisée des Mondes de Philippe Pullman, sorti en 2000. Décidément, c'est une année fondatrice. C'est une saga, notamment connue par les personnes de ma génération, pour l'adaptation au cinéma du tome 1, La Boussole d'Or, en 2007. Alors... Attention, on a discuté avec Colin au opinion populaire, pardon, parce que j'ai appris que le film avait été hyper mal accueilli par la critique, donc il n'y a jamais eu de suite, mais moi j'avais adoré, c'est un des films préférés de mon enfance, et je me rappellerai toujours de Nicole Kidman en robe dorée de nuit dans ce film, mais bref, j'ai jamais pu savoir la suite du coup, parce que je n'ai pas lu la saga, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer ce soir.
Alors je vais essayer de le faire tout en spoilant pas ce qui est... Mais bon, c'est des années 2000, on a le droit de spoiler un peu, n'est-ce
oui,
pas? On se met d'accord,
si
les auditeurs.
Lire, il fallait le lire avant, excusez-moi.
Voilà. Donc j'ai choisi ce tome-là parce que donc, dans cette saga, on suit l'histoire d'abord de Lyra, puis, qui est l'héroïne, puis de Will qui la rejoint à peu près au statut de héros à équivalence, quoi, mais au cours de la saga. L'un et l'autre sont d'abord amis. Et cette amitié très forte qui les rapproche vient de plusieurs choses. Déjà, ils sont orphelins tous les deux. Ils traversent ensemble des mondes et ils vivent des épreuves qui sont difficiles, etc. On arrive dans le tome 3, essoufflé. Enfin, il y a un temps de pause. Ils rejoignent dans un des mondes qu'on traverse, Mary. Et ce qu'il faut savoir, c'est que La Croisée des Mondes, par Philippe Pullman, c'est une réécriture des Paradis Perdus de John Milton. Donc c'est une œuvre poétique qui d'ailleurs parle pas mal d'amour, hein, puisque c'est elle-même une réécriture de la Bible. Voilà. Et donc Mary, c'est la tentatrice dans le roman. Et il y a deux scènes qui, quand je les ai lues, moi en tant qu'enfant, elles m'ont absolument coupé le souffle. Et elles m'ont marquée à jamais et je ne cesse de les réécrire dans tous mes romans. Là, par exemple, il y en a une réécriture dans C'est pas ma faute, un roman que j'ai écrit en 2020. Dans Un peu plus près des étoiles, il y a une réécriture de cette scène-là aussi. Et dans Les Nuits Bleues également. À chaque fois, sous une forme différente, mais j'en ai fait 1000 fanfictions. Je suis vraiment très, très obsessionnelle comme personne. Donc, en plus, voilà. Et donc, cette scène, c'est, en fait, elle est double. Will et Lyra sont amoureux. En fait, ils sont si jeunes et c'est la première fois. Et donc, ils n'ont pas mis le doigt sur le fait qu'ils s'aimaient. Et ils sont autour d'un feu avec Mary dans cet univers qui est comme un peu une pause dans le récit. Ils sont voilà, autour d'un feu le soir. Et elle leur dit rien de eux. Elle leur parle d'elle. Elle est plus âgée. Elle a une trentaine d'années. Et elle a été amoureuse une fois. Et j'ai des frissons rien que d'en parler. Et elle a été amoureuse une fois, elle dit à ses enfants qui l'écoutent et qui sont des ados, voilà, qui sont en train de basculer de l'enfance à l'adolescence, elle leur dit, je me rappelle de ce que c'était que le sentiment amoureux. Pour moi, le sentiment amoureux, c'est la Chine. La première fois que je suis tombée amoureuse, je suis comme partie en Chine. C'était en Italie, mais c'était comme un voyage. J'avais toujours rêvé de partir en Chine et voilà, tout d'un coup l'amour et j'y étais. Et en fait, c'est elle raconte que voilà, elle rencontre, elle était chercheuse et elle rencontre à un colloque de chercheurs un type au bord de la plage. Et voilà, il y a un truc qui se passe entre eux et il lui met entre les lèvres une amande et elle dit voilà, la Chine pour moi ça a le goût pour toujours de cette amande. Et Lyra se tient, elle écoute, elle a chaud du feu et elle se tient les genoux et elle les regarde et elle comprend qu'elle est amoureuse et le lendemain elle va glisser un fruit dans la bouche de voilà dans la bouche de Will alors qu'ils font un pique-nique et c'est juste ça en fait et c'est à la fois je pense la scène la plus érotique de la littérature jeunesse mais en plus c'est extrêmement bien écrit c'est on attend ça depuis 3 tomes ouais. Il se passe rien de plus en fait et pourtant tout est dit. Et voilà, c'est ça l'amour, pour moi.
C'est magnifique.
Oui, il est vraiment temps qu'on lise ce tome 3.
Oui, il est vraiment temps qu'on lise ce tome 3.
Donc, on peut lire les 3 tomes de À la croisée des mondes, écouter l'ouverture d'Étienne Dao et voir ou revoir le film Carole. Merci beaucoup, Anne-Fleur Multon. Il est déjà l'heure du générique de fin de Pour un flirt avec. C'est un moment où une auditrice, en l'occurrence aujourd'hui, nous parle d'une chanson qui lui évoque un souvenir très fort de sa vie sentimentale, souvenir amoureux, souvenir d'amitié, de rupture, souvenir familial, tout y passe. Pour participer, chers auditeurs, c'est très simple, envoyez-nous une note vocale par Instagram @pourunflirtavec ou par mail pourunflirtavec@radiocampusparis.org. Ce soir, on conclut notre émission avec la voix de Dorothée qui nous raconte une histoire de fin d'été. Le vent fait craquer les branches, la brume vient dans sa robe blanche.
Il y a une chanson de Francis Cabrel à laquelle je suis très attachée parce qu'elle raconte un peu mon changement de vie, si je puis dire.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche.
J'étais en couple avec un homme pendant 13 ans. Autour de 35 ans, j'ai compris que j'étais lesbienne, en fait. Donc on s'est séparés. On a 2 enfants ensemble, on leur a annoncé pendant l'été, ça n'a pas été facile évidemment, mais tout s'est assez bien passé. Ils devaient déménager juste après les vacances scolaires et moi je gardais l'appartement et les enfants faisaient 1 semaine sur 2. Et à un moment pendant les vacances d'été, cette chanson est passée à la radio, on était en voiture et ça m'a fait pleurer à chaudes larmes. Et après je l'ai écouté en boucle pendant la mise en place de la garde alternée, tout ça, beaucoup de changements. Le deuxième était petit, il avait 3 ans. Et j'ai compris après coup, en fait, seulement après que voilà, elle s'appelle Octobre, cette chanson. Et vu que tout ça s'est passé en septembre, elle racontait aussi l'après, quoi. Après septembre, il y a eu Octobre. Et cette chanson, elle apprend à voir la beauté dans ce qui peut sembler triste.
Des nappes en couleur pour ne pas qu'Octobre nous prenne.
On ira tout en haut des collines pour voir ce qu'Octobre illumine. Voilà, la vie d'après, c'est aussi évidemment beaucoup de joie. La joie d'être lesbienne, ça, c'est pas rien.
On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'Octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline.
Et ben voilà, pour ce témoignage de Dorothée, je crois qu'il vous a beaucoup plu, Anne-Claire Multon.
Oui, j'ai trouvé... Alors, on a rigolé, on a dit on est vraiment sur Lesbienne FM.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'était très touchant. Et après, le choix de la musique qui était un petit peu inattendu et le témoignage. Ouais. Merci.
Et Dorothée, d'ailleurs, qui nous a dit qu'elle avait adoré aussi votre roman, Les Nuits Bleues. Donc voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Et c'est la fin de cette émission, effectivement, très saphique ce soir. Toutes les références, en tout cas, de cette émission sont à retrouver sur le site de radiocampusparis.org à la page de Pour un flirt avec. De vous, Anne-Fleur Multon, on peut donc bien sûr lire Les Nuits Bleues, cette édition de l'Observatoire, et puis une ribambelle d'albums jeunesse. On a parlé ce soir de Il était une autre fois chez On ne compte pas pour du beurre, ou encore donc de cette saga Allo Sorcière chez Pulp Fiction. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous.
Merci à tous les deux.
À la réalisation ce soir, on avait Margot Page, au visuel, aux réseaux sociaux et à la lecture, notre merveilleuse Lise Niederkorn. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les applications de podcast et nous suivre sur Instagram, @pourunflirtavec. À bientôt, Colin.
À bientôt, Zoé. Merci.
Merci.
Quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être.